Troisième soirée, nous lisons dans les Actes des Apôtres, le chapitre 1er, les versets 1 à 14. J'ai composé le premier traité au Théophile sur toutes les choses que Jésus commença de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut élevé au ciel, après avoir donné par l'Esprit Saint des ordres aux apôtres qu'il avait choisis, à qui aussi, après avoir souffert, il se présenta lui-même vivant, avec plusieurs preuves assurées, étant vu par eux durant 40 jours, et parlant des choses qui regardent le royaume de Dieu. Et étant assemblés avec eux, il leur commanda de ne pas partir de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, laquelle, dit-il, vous avez ouï de moi. Car Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, vous serez baptisés de l'Esprit Saint dans peu de jours. Eux donc, étant assemblés, l'interrogèrent, disant, « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétablis le royaume pour Israël ?» Mais il leur dit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les saisons que le Père a réservées à sa propre autorité, mais vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout de la terre. » Et ayant dit ces choses, il fut élevé de la terre, comme il regardait, et une nuée le reçut et l'emporta de devant leurs yeux. Et comme il regardait fixement vers le ciel, tandis qu'il s'en allait, voici deux hommes en vêtements blancs se tinrent là à côté d'eux, qui aussi dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous tenez-vous ici, regardant vers le ciel ? Ce Jésus qui a été élevé d'avec vous dans le ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en allant au ciel. » Alors ils s'en retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, le chemin d'un sabbat. Et quand ils furent entrés dans la ville, ils montèrent dans la chambre haute où demeuraient Pierre et Jean et Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, et Simon Zélote, et Jude, frère de Jacques. Tous ceux-ci persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes et avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Second avènement de Christ. Je désire vous parler de l'avènement de Christ. Plusieurs sujets se lient à ce fait principal, par exemple le règne de l'Antichrist. Mais je me bornerai ce soir au fait même de l'avènement du Seigneur. J'ai ouvert cette séance par la lecture d'Actes chapitre 1, parce que la promesse du retour du Seigneur nous y est désignée comme l'unique espérance de l'Église, comme le premier objet qui a dû fixer l'attention de ses disciples lorsqu'ils suivaient en vain des yeux le Seigneur qui s'éloignait en l'air et allait se cacher en Dieu. Dans ce chapitre, il y a trois choses à remarquer à l'occasion de l'enlèvement du Seigneur. La première, c'est que les disciples désiraient savoir quand et comment Dieu rétablirait le royaume d'Israël. Or, Jésus ne dit pas que ce royaume ne sera pas rétabli, il dit seulement que l'époque de cette restauration n'est pas révélée. La seconde, c'est que le Saint-Esprit devait venir. Et la troisième, c'est que, pendant que les disciples avaient les yeux levés vers le ciel, deux anges leur dirent, « Ne regardez pas en haut, ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous au ciel en reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter. Il devait attendre le retour de Christ. Si nous étudions l'histoire de l'Église, nous la verrons décliner exactement en proportion qu'elle a perdu de vue cette doctrine de l'attente du retour du Seigneur. En oubliant cette vérité, elle s'est affaiblie, mondanisée. Mais, désirant ne point sortir de la sphère de la parole, je me propose de vous démontrer par elle comment cette pensée du retour de Christ dominait l'intelligence, soutenait l'espérance, inspirait la conduite des apôtres. Et je vais le faire par des citations textuelles de divers livres du Nouveau Testament. Actes chapitre 3, versets 19 à 21. « Amendez-vous et vous convertissez afin que vos péchés soient effacés quand les temps de rafraîchissement viendront ou afin que les temps de rafraîchissement viennent par la présence du Seigneur. Le Saint-Esprit est venu, il est demeuré avec l'Église, mais les temps de rafraîchissement viendront par la présence du Seigneur. » Il est impossible d'appliquer ce passage au Saint-Esprit puisqu'il était déjà à l'heure là descendu et qu'il disait par la bouche de l'apôtre lequel il faut que le ciel contienne jusqu'au rétablissement de toutes choses. Et, de fait, le Saint-Esprit n'a pas rétabli toutes choses. Celui qui doit venir, selon ce passage, ne doit pas venir pour juger les morts ni pour que le monde soit brûlé et détruit. C'est avant tout pour le rétablissement des choses dont Dieu a parlé par les prophètes. Je vous cite ces passages pour vous faire comprendre ce que j'entends par la venue du Sauveur. Ce n'est pas le jugement des morts, ce n'est pas le grand trône blanc, c'est le retour de Jésus-Christ en personne, présent et visible, quand il sera envoyé du ciel. Si vous comparez ces versets avec ce qui se trouve en Apocalypse chapitre 20, vous verrez clairement que la venue de Jésus-Christ et le jugement des morts sont deux événements distincts, que lorsque le jugement des morts aura lieu, il n'est pas parlé de Christ revenu du ciel sur la terre, car il est dit qu'alors le ciel et la terre s'enfuiront de devant sa face. Le Seigneur reviendra sur la terre. Je vais vous montrer comment lui-même, d'abord, puis le Saint-Esprit, par les apôtres, ont continuellement dirigé notre attention sur ce retour personnel. Matthieu chapitre 24, versets 27 à 30. Alors toutes les tribus de la terre se lamenteront en se frappant la poitrine et verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel. Certes, l'expédition de Tite contre Jérusalem n'est pas la venue du Sauveur dans les nuées du ciel. Ce n'est pas là non plus le jugement des morts devant le tribunal du grand trône blanc. À cette époque-là, la terre n'est plus, tandis qu'à celle du passage cité, les nations de la terre sont présentes et qu'il s'agit d'un événement qui concerne cette terre. Et les tribus se lamenteront en se frappant la poitrine. Ce n'est pas un millénium à la suite de l'exercice de la puissance du Saint-Esprit. Le monde n'a jamais vu le Saint-Esprit. Ce sont les tribus de la terre qui se lamenteront quand elles verront le Seigneur Jésus. Verset 33. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Matthieu chapitre 24, versets 42 à 51. La fidélité de l'Église dépendait de l'attention continuelle qu'elle donnait à cette vérité du retour de Christ. Dès le moment qu'elle a dit « Le Maître tarde à venir », elle a commencé à dominer tyranniquement et à devenir mondaine. Tenez-vous donc prêt, dit Jésus, car le Fils de l'homme, non pas la mort, vient. Chapitre 25. L'attente du retour de Christ est la mesure exacte, le thermomètre, si je puis dire, de la vie de l'Église. Comme le serviteur devint infidèle du moment qu'il eut dit « Mon maître tarde à venir », il en est de même des dix vierges, puisqu'il est dit qu'elles s'endormirent toutes. De plus, ce n'était ni le Saint-Esprit, ni la mort que les vierges devaient attendre fidèlement. Car ni la mort, ni le Saint-Esprit ne sont l'époux de l'Église. Toutes les vierges se trouvèrent dans la même situation. Les sages, c'est-à-dire les vrais saints, comme les folles, qui manquaient de l'huile du Saint-Esprit, s'endormirent ensemble, oublièrent le retour immédiat de Christ. Dans Marc, chapitre 13, nous avons à peu près les mêmes choses. Le verset 26 nous défend de l'appliquer à l'invasion des Romains, et quand il est dit, verset 29, « Il est proche à la porte », il n'est pas question du jugement des morts, ni du grand trône blanc. Il ne sera question ni de maison, ni de ménage dans ce jour-là. On ne compte que quatre passages dans le Nouveau Testament qui parlent de la joie de l'âme délogée. La première occasion, c'est quand le brigand avait dit au Seigneur « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». C'est à la venue de Jésus en gloire qu'il pensait, vérité qui était familière aux Juifs. Et le Seigneur lui répondit, « Tu ne dois pas attendre pour cela que je revienne, tu viendras dans le paradis avec moi aujourd'hui. » La seconde circonstance est celle d'Étienne qui dit, « Seigneur, Jésus, reçois mon esprit. » La troisième, lorsque saint Paul dit, « Absent du corps et présent avec le Seigneur. » 2 Corinthiens chapitre 5. La quatrième, Philippiens 1, versets 22 et 23, « Je ne sais lequel je dois choisir, déloger et être avec Christ, ce qui est beaucoup meilleur. En effet, il est beaucoup plus avantageux d'attendre la gloire présent avec Christ qu'en restant ici-bas, non qu'on soit dans la gloire quand on déloge, mais on est quitte du péché, à l'abri du péché, et l'on jouit du Seigneur sans péché. Oui, c'est un état beaucoup meilleur, mais c'est aussi un état d'attente, tel que celui où se trouve Christ lui-même, assis à la droite du Père et attendant ce qui reste. » Luc, chapitre 12, verset 35. « Que vos reins soient saints et vos lampes allumées. » Ici, nous retrouvons la parabole du serviteur infidèle. Seulement, le Sauveur ajoute que le serviteur qui a connu la volonté de son maître et qui ne s'est pas tenu prêt, voilà la chrétienté, sera frappé de plusieurs coups. Mais celui qui ne l'a pas connu, les païens, sera frappé de moins de coups. Tous seront jugés. Mais la chrétienté est dans un état infiniment pire que celui des Juifs et des païens. Luc, chapitre 17, verset 30, « Il en sera de même au jour où le Fils de l'homme sera manifesté. » Luc, chapitre 21, verset 27, « Alors on verra le Fils de l'homme venant dans une nuée avec une grande puissance et une grande gloire. » Le figuier dont le Sauveur parle à cette occasion est spécialement le symbole de la nation juive. « Veillez donc, ajoute-t-il, afin que vous puissiez subsister devant le Fils de l'homme. » Ces deux chapitres de Luc, savoir le 17e et le 21e, comme Matthieu 24 et Marc 13, concernent les Juifs. On peut ajouter Luc, chapitre 19, où les serviteurs appelés et les ennemis qui ont rejeté l'homme noble désignent très clairement les serviteurs de Christ et la nation juive, voir les versets 12, 13 et 27. Jean, chapitre 14, verset 2, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, je vais vous préparer le lieu, puis je reviendrai. Le Seigneur lui-même reviendra prendre l'Église, afin que l'Église soit là où il est. » Acte 1, verset 11, « Ce Jésus qui a été enlevé au ciel en reviendra de la même manière. » Acte 3, verset 20, « Voici la prédication de l'apôtre aux Israélites. Convertissez-vous et Jésus reviendra. Vous avez tué le prince de la vie, vous avez renié le saint et le juste, Dieu l'a ressuscité. Amendez-vous, repentez-vous et il reviendra. » Mais ils n'ont pas voulu se convertir. Pendant 3 ans, il avait vainement cherché du fruit au figuier. Les vignerons, au contraire, ont tué le fils de celui qui les avait établis dans la vigne. Le Fils de Dieu, Jésus, a demandé leur pardon sur la croix, d'où sa voix est toujours efficace, en disant « Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Maintenant, le Saint-Esprit, par la bouche de l'apôtre, répond à l'intercession de Jésus « Je sais que vous l'avez fait par ignorance. Amendez-vous donc, il reviendra. Amendez-vous, afin que les temps de rafraîchissement viennent par la présence du Seigneur. Mais nous savons qu'ils se sont obstinés contre le Saint-Esprit. » Actes chapitre 7, verset 51. Verset 21, et qu'il aura envoyé Jésus-Christ, que le ciel doit contenir jusqu'au temps du rétablissement de toutes les choses dont Dieu a parlé de tout temps par la bouche de ses saints prophètes. Voilà le grand but de tous les conseils de Dieu. Comme nous avons vu le secret de sa volonté, que Dieu réunirait toutes choses en Christ, nous voyons ici qu'il en a parlé par la bouche de tous ses saints prophètes. Comment toutes ces choses doivent-elles s'accomplir? Est-ce par l'effusion du Saint-Esprit? Non, parce qu'il est dit que c'est par la présence du Seigneur, et quand il aura envoyé Jésus. Sans doute, je crois que le Saint-Esprit sera répandu, et il le sera spécialement sur les Juifs, mais dans le passage cité, l'événement aura lieu par la présence de Jésus. Le ciel est ici hors de question. Il ne peut y avoir de révélation plus explicite que c'est par l'envoi de Jésus que les choses dont ont parlé les prophètes recevront leur accomplissement. Je ne sais comment on peut éluder la force et la simplicité de cette déclaration. Nous voyons la chute, la ruine de l'homme. Nous voyons même toute la création assujettie à la corruption. L'épouse désire que l'époux soit manifesté. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui rétablira la création, ni qui est l'héritier de toutes choses. C'est Jésus. Quand Jésus apparaîtra dans la gloire, le monde le verra, tandis qu'il ne peut voir le Saint-Esprit. Tout genou se ploiera au nom de Jésus. L'œuvre du Saint-Esprit n'est pas de rétablir toute chose ici-bas, mais d'annoncer Jésus qui reviendra. Encore une fois, c'est le Saint-Esprit qui était en Saint-Pierre qui a dit qu'il faut que le ciel le contienne. Contienne qui? Non, le Saint-Esprit. Il était là déjà, mais Jésus, et toute notre affaire, c'est de croire. Maintenant, je passe aux épîtres, afin que par elles encore, nous reconnaissions que la venue du Sauveur était l'attente vivante et constante de l'Église. Nous voyons en Romains chapitre 8, versets 19 à 22, toute la création en suspens jusqu'au moment de cette venue qui est clairement marquée, si l'on compare Jean chapitre 14, versets 1 à 3, et Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 4. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 7. Vous avez tous les dons du Saint-Esprit en attendant la manifestation du Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 1 verset 10, dont nous avons déjà parlé, puisqu'au dernier jugement les cieux et la terre auront passé, c'est avant cette époque que Dieu réunira en Christ toutes choses. Philippiens chapitre 3 verset 20 et 21, mais pour nous, notre bourgeoisie est dans les cieux, d'où aussi nous attendons le Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps vil en son corps glorieux. Colossiens chapitre 3, quand Christ, qui est votre vie, apparaîtra, vous apparaîtrez aussi avec lui en gloire. Les deux épîtres aux Thessaloniciens roulent entièrement sur ce sujet. Dans la première épître, tout y est en vue de la venue de Christ, tout ce que dit Paul de sa joie, de son œuvre s'y rapporte. Premièrement, la conversion même se rapporte à cette vérité. Chapitre 1, verset 10. Les fidèles de Thessalonique, qui avaient été pour modèle à ceux de la Macédoine et de l'Achaïe, et dont la foi était si célèbre qu'il n'était besoin d'en dire rien, avaient été convertis des idoles à Dieu pour servir le Dieu vivant et véritable et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Il est remarquable que cette Église, une des plus florissantes de celles auxquelles les apôtres ont écrit, soit justement celle que le Seigneur a choisie pour lui révéler avec le plus de détails les circonstances de son avènement. Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Voilà donc la foi des Thessaloniciens. On parlait dans tout le monde de leur foi, savoir qu'ils attendaient Jésus des cieux. Et c'est là notre affaire d'avoir cette foi, cette même foi que les Thessaloniciens. Et il faut comme eux attendre le Seigneur avant la période de 1000 ans. Il ne disait certainement pas « il s'écoulera 1000 ans avant que le Seigneur arrive ». Chapitre 2, verset 19. Car quelle est notre espérance? N'est-ce pas vous qui l'êtes devant notre Seigneur au jour de son avènement? Chapitre 3, verset 13. Pour affermir vos cœurs sans reproche en sainteté devant Dieu notre Père, à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, accompagné de tous ses saints. C'est l'idée qui domine l'intelligence de l'apôtre. Chapitre 4, versets 13 à 18. Il est remarquable que la seule consolation que donne l'apôtre à ceux qui entouraient le lit de mort d'un fidèle est son retour avec Jésus et leur mutuelle rencontre. On dit « Oh, soyez tranquille, il est allé dans la gloire ». Non, cela n'est pas venu à la pensée de l'apôtre. Au contraire, la consolation qu'il donne à ceux qui assistaient au dernier moment des fidèles, c'est « Soyez tranquilles, Dieu les ramènera. Il faut qu'il se soit fait un changement immense dans les sentiments habituels des chrétiens, puisque la seule consolation que donne l'apôtre est tenue pour une folie aujourd'hui. Les fidèles de Thessalonique étaient tellement pénétrés de la pensée du retour de Christ qu'ils ne s'imaginaient pas pouvoir mourir avant cet événement. Et lorsque l'un d'entre eux délogeait, ses amis s'affligeaient en pensant qu'il ne serait pas présent à ce moment-là. Or Paul les rassure en leur disant que ceux qui dorment en Jésus, Dieu les ramènera avec lui. Nous pouvons comprendre par cet exemple combien l'Église a mis de côté l'espérance qui occupait l'esprit des premiers fidèles. Combien nous sommes éloignés des pensées apostoliques que nous avons remplacées par l'idée d'un état intermédiaire de bonheur, l'âme séparée du corps, état vrai sans doute et supérieur de beaucoup au nôtre sur la terre, mais vague et qui même est aussi un état d'attente. Jésus lui-même attend et les saints décédés attendent. Je ne désire pas affaiblir la vérité de cet état intermédiaire de bonheur. Voici comment l'apôtre en parle en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 6. Car nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons, étant chargés, vu que nous désirons non pas d'être dépouillés, mais d'être revêtus, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Mais en attendant, nous avons confiance, c'est-à-dire, si le corps mortel n'est pas absorbé par la vie, n'est pas transmué, la confiance que j'ai n'est pas interrompue à la mort. J'ai déjà reçu la vie de Christ dans mon âme, elle ne peut pas manquer, il peut arriver que je déloge, mais la vie de mon âme n'en reçoit pas d'atteinte, j'ai déjà reçu la vie de Christ, si je déloge, je serai avec lui. Encore une remarque sur 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 15 à 17. Nous qui vivrons, ceux qui seront restés vivants sur la terre pour l'arrivée du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis, parce que le Seigneur lui-même, avec un cri pour signal, avec une voix d'archange et avec une trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, ceux qui seront restés, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur en l'air, et ainsi nous serons toujours avec lui. Si l'apôtre avait attendu un millénium du Saint-Esprit avant la venue de Jésus, comment aurait-il pu dire « Nous qui vivrons encore à la venue de Christ » C'était donc chez lui une attente continuelle de la venue de Christ, dont il ne savait pas le moment, mais qu'il avait raison d'attendre. S'est-il trompé en cela ? Non, pas du tout. Il ne faisait qu'attendre. Et cette attente avait cela de bon qu'elle le maintenait dans un parfait détachement du monde. Si l'on attendait d'un jour à l'autre l'arrivée du Seigneur, où seraient tous ces plans que l'on fait pour une famille, pour une maison, pour flatter l'orgueil de la vie, pour s'enrichir ? C'est la nature de l'espérance que nous avons qui forme notre caractère. Et quand le Seigneur viendra, Saint Paul jouira des fruits de son attente. L'espérance qui l'animait produisait ses beaux fruits. C'était à l'occasion de cette espérance qu'il disait que l'esprit entier, l'âme et le corps soient conservés sans reproche en la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, versets 2 à 4. Remarquez que ce jour ne doit pas surprendre les fidèles comme un larron. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 9 et 10, et chapitre 2, versets 3 à 12. Au lieu du monde béni par un millénium sans la présence de Jésus, vous verrez l'homme de péché empirant toujours jusqu'à ce qu'il soit détruit par l'illustre avènement de Christ. Il est pour moi de toute évidence que ce millénium de l'esprit seulement est une fausseté, parce que le mystère d'iniquité qui se mettait en train du temps de l'apôtre Saint Paul devait se poursuivre jusqu'à ce que fût manifesté l'homme de péché qui sera détruit par l'illustre avènement de Christ lui-même par le souffle de sa bouche. Or, dans cet état de choses, où y a-t-il place pour un tel millénium ? Pour le sens de l'expression « esprit de sa bouche », voyez Ésaïe 11, verset 2. 1 Timothée, chapitre 6, verset 14 à 16. « Garde ce qui t'est commis, sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ, que montrera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi de ceux qui règnent et le seigneur de ceux qui dominent, le seul qui possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible et qu'aucun homme n'a vu ni ne peut voir. À lui l'honneur et le pouvoir éternel. Amen. 2 Timothée, chapitre 4, verset 1. J'en rends donc témoignage devant Dieu et le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts lors de son apparition et de son règne. Tite, chapitre 2, versets 11 à 13. La grâce est apparue, nous enseignant la manière de vivre, premièrement, et secondement, l'attente de la gloire. L'apparition de grâce est déjà arrivée, elle nous enseigne à attendre l'apparition glorieuse.
Hébreux 9, verset 28. De même aussi, Jésus-Christ, ayant été offert une première fois pour porter sur lui les péchés d'un grand nombre, apparaîtra une seconde fois, sans péché, à salut à ceux qui l'attendent. Comme souverain sacrificateur, lorsqu'il aura terminé son œuvre d'intercession, il sortira du sanctuaire. Voyez aussi Lévitique 9, versets 22 à 24.
Jacques 5, verset 9. Le juge est à la porte. 2 Pierre 1, versets 16 à 21. Car ce n'est pas en suivant des fables artificieuses que nous vous avons fait connaître la puissance et l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est après avoir été témoins oculaires de sa majesté, car lorsqu'il reçut de Dieu le Père l'honneur et la gloire, cette voix lui ayant été adressée par la gloire magnifique, c'est ici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis ma bienveillance. Nous entendîmes aussi cette voix adressée du ciel, étant avec lui sur la sainte montagne. Et nous avons la parole prophétique plus ferme à laquelle vous faites bien de vous attacher comme à une lampe éclairant dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour ait commencé à luire et que l'étoile du matin se soit levée dans vos cœurs. Sachant premièrement ceci, c'est qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est d'une explication particulière, car jamais prophétie ne fut apportée par une volonté d'homme, mais c'est poussé par l'Esprit Saint que les saints hommes de Dieu ont parlé. La transfiguration était donc comme un spécimen, un échantillon, de la venue de Jésus en gloire. 1 Jean chapitre 3, versets 2 et 3. Or nous savons que lorsque le Fils de Dieu apparaîtra, nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous ne lui serons semblables que lorsqu'il apparaîtra, pas avant. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie. Sachant que lorsque Jésus apparaîtra, je lui ressemblerai, je dois être autant que possible, dès maintenant, tel que Jésus. Voyez la puissante efficacité de cette vérité du retour de Christ, et quel effet pratique découle de cette attente. Cette espérance est pour nous la mesure de la sainteté, comme elle en est le motif. Ceux aussi qui sont dans le ciel, Apocalypse, chapitre 5, verset 10, disent dans leur chant, « Nous régnerons sur la terre. » Et c'est là le langage des fidèles qui sont déjà en haut, entourant le trône. Ils disent, « Nous régnerons » et non pas « Nous régnons ». Ils sont eux-mêmes dans un état d'attente, comme Jésus-Christ lui-même, attendant ce qui reste, que ses ennemis soient mis pour le marchepied de ses pieds. Étudions encore Matthieu chapitre 13, la parabole de l'ivraie et du bon grain. L'ivraie, c'est-à-dire le mal que Satan a fait là où le bon blé a été semé, doit croître jusqu'à la moisson, qui est la fin de cette économie. Le mal qu'il a causé par les hérésies, les fausses doctrines, les religions fausses, tout ce mal doit continuer à croître et mûrir. Cette ivraie doit augmenter, pulluler dans le champ du Seigneur jusqu'à la moisson. Voilà une révélation positive qui contredit formellement l'idée d'un millénium par le Saint-Esprit sans le retour du Seigneur. Maintenant, nous avons vu que la venue de Christ se lie à toutes les pensées, à tous les motifs de consolation et de joie et à la sanctification de l'Église, même au lit de mort, et que celui qui quitte ce corps, Christ le ramènera. Nous avons vu aussi en passant d'un côté que c'est la venue du Sauveur qui sera le moyen du rétablissement de toutes choses, et de l'autre que le mal doit augmenter dans le champ du Seigneur jusqu'à la moisson. Que le Seigneur applique ses vérités à nos cœurs, chers amis, d'un côté pour nous détacher des choses de ce monde et d'un autre pour nous attacher à sa venue, à lui-même en personne, afin que nous nous purifions comme il est pur. Certes, il n'y a rien de plus pratique que ces vérités, rien de plus propre à nous déprendre d'un monde qui doit être jugé, en même temps qu'à fortifier notre communion avec celui qui va venir pour le juger. Non, il n'est rien qui puisse mieux nous montrer ce que doit être notre purification et la provoquer en nous, rien qui puisse autant nous consoler, nous ranimer et nous identifier avec celui qui a souffert pour nous, afin que nous qui souffrons, nous régnions avec lui, co-héritiers en gloire. Assurément, si l'on attendait le Seigneur de jour en jour, il y aurait un renoncement qui ne se voit guère parmi les chrétiens d'aujourd'hui. Que nul ne dise « Mon maître tarde à venir ».